Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio en compagnie de Christine. Aujourd'hui, nous abordons la 19e édition du millefeuille revisité. Dans le dernier millefeuille, je vous ai parlé de Neige Sino et de son récit Triste Tigre. Ce podcast aurait pu être un écho au livre de Neige Sino avec celui d'Emmanuel Carrère, l'adversaire, que Neige Sino évoquait comme référence. Car il y a entre ces deux auteurs un lien étroit. Cette fascination qu'ils ont eue chacun pour leurs sujets respectifs, si horrible soit-il, et l'extrême vigilance qu'ils ont eue comme écrivains, à savoir comment rester à l'endroit le plus juste pour en parler et disons même pour nous l'écrire. J'aurais donc bien sûr pu choisir L'adversaire d'Emmanuel Carrère, livre qui m'a scotché moi aussi quand je l'ai lu et qui reste longtemps en mémoire, mais j'ai préféré vous parler aujourd'hui de l'œuvre d'Emmanuel Carrère qui me touche davantage encore. Il s'agit d'autres vies que la mienne.
Alors depuis le début de cet entretien, vous le dites, Emmanuel Carrère, je ne fais plus de fiction. Vous dites même parfois, je vous ai déjà entendu le dire, que vous n'aimez pas qu'on dise de vous que vous êtes un romancier.
Ben, en même temps, c'est, si vous voulez, j'écris en utilisant absolument toutes les ressources du roman. C'est toutes les techniques du roman. Simplement sur un objet qui n'est pas, sur des objets qui ne sont pas de la fiction. Mmh. C'est tout. Mais disons, Truman Capote avait créé ce terme de non-fiction novel, roman de non-fiction. Et à vrai, ça me convient assez bien. Ça a une forme romanesque, mais c'est pas inventé.
C'est donc Emmanuel Carrère que nous venons d'entendre avec cet extrait de l'émission La Grande Librairie, réalisée en décembre 2023 par France 5. Mais sans plus attendre, pour ne rien changer à nos bonnes habitudes, je vous propose d'écouter le début de D'autres vies que la mienne. La nuit avant la vague, je me rappelle qu'Hélène et moi avons parlé de nous séparer. Ce n'était pas compliqué. Nous n'habitions pas sous le même toit, n'avions pas d'enfants ensemble et nous pouvions même envisager de rester amis. Pourtant, c'était triste. Nous gardions en mémoire une autre nuit, juste après notre rencontre, passée tout entière à nous répéter que nous nous étions trouvés, que nous allions vivre le reste de notre vie ensemble, vieillir ensemble, et même que nous aurions une petite fille. Plus tard, nous avons eu une petite fille. À l'heure où j'écris, nous espérons toujours vieillir ensemble et nous aimons penser que nous avions dès le début tout compris. Mais il s'était écoulé depuis ce début une année compliquée, chaotique, et ce qui nous paraissait certain à l'automne 2003, dans l'émerveillement du coup de foudre amoureux, ce qui nous paraît certain, en tout cas désirable, 5 ans plus tard, ne nous paraissait plus certain du tout, ni désirable, cette nuit de Noël 2004, dans notre bungalow de l'hôtel Eva Langka. Nous étions certains, au contraire, que ces vacances étaient les dernières que nous passions ensemble et que malgré notre bonne volonté, elles étaient une erreur. Allongés l'un contre l'autre, nous n'osions pas parler de la première fois, de cette promesse à laquelle nous avions tous les deux cru avec tant de ferveur et qui, de toute évidence, ne serait pas tenue. Il n'y avait pas entre nous d'hostilité. Nous nous regardions seulement nous éloigner l'un de l'autre avec regret. C'était dommage. Je ressassais mon impuissance à aimer, d'autant plus criante qu'Hélène est vraiment quelqu'un d'aimable. Je pensais que j'allais vieillir seule. Hélène, elle, pensait à autre chose. À sa sœur, Juliette, qui juste avant notre départ avait été hospitalisée pour une embolie pulmonaire. Elle avait peur qu'elle tombe gravement malade, peur qu'elle meure. J'objectais que cette peur n'était pas rationnelle, mais elle a bientôt pris toute la place dans l'esprit d'Hélène, et je lui en ai voulu de se laisser absorber par quelque chose à quoi je n'avais aucune part. Elle est allée fumer une cigarette sur la terrasse du bungalow. Je l'ai attendue, couchée sur le lit, en me disant « Si elle revient bientôt, si nous faisons l'amour, peut-être que nous ne nous séparerons pas. Peut-être que nous vieillirons ensemble. » Mais elle n'est pas revenue. Elle est restée seule sur la terrasse à regarder le ciel s'éclaircir peu à peu, à écouter les premiers chants d'oiseaux, et je me suis endormie de mon côté, seule et triste, persuadée que ma vie allait tourner de plus en plus mal. Sa situation sur l'étagère? Eh bien, sur mon étagère, les livres d'Emmanuel Carrère se situent entre ceux d'Albert Camus, très exactement ses correspondances avec Maria Cazares, et ceux d'Aimé Césaire avec le discours sur le colonialisme. D'Albert Camus, qui, rappelons-le, a été écrivain, philosophe, romancier, essayiste et dramaturge, on retiendra moins sa casquette de journaliste qui le rapproche d'Emmanuel Carrère que le cœur de leurs œuvres qui les rassemble, comme de grands témoins de leur temps, passionnés par l'humain sous tous ses angles. Aimé Césaire, c'est celui qui, avec Damas et Senghor, a créé le mouvement de la négritude, et de cette grande figure de la pensée anticoloniale à l'écriture foisonnante, il est sans doute plus difficile de trouver un lien étroit avec Emmanuel Carrère. Même si être entouré par Camus et Césaire ne serait pas sans déplaire à Emmanuel Carrère, qu'en est-il des auteurs qu'il choisirait comme compagnons d'étagère? Quand il est adolescent, il lit beaucoup de romans fantastiques et de science-fiction, dans la collection Marabout de l'époque. Cette passion le tient jusqu'à 25 ans, et il a le sentiment que cette littérature l'a complètement formé. Il lit Lovecraft, écrivain américain, un spécialiste de la terreur qui est arrivé entre ses mains par le biais de son oncle à l'occasion d'un cadeau fait à sa mère. Les romans de Lovecraft l'ont marqué, tout comme les nouvelles de Georges Langeland, l'auteur du recueil « Nouvelles de l'Antimonde », dont celle de la mouche qui sera portée plus tard à l'écran par David Cronenberg. Outre Philippe K. Dick, dont il a écrit une biographie, il adore aussi Stephen King. Dans la littérature sud-américaine, ses choix vont vers Roberto Bolaño, écrivain chilien, Juan Rolfo, écrivain mexicain dont il a lu son roman Pedro Páramo et son recueil de nouvelles Le Llano en flammes, lorsqu'il avait une vingtaine d'années et qui reste parmi ses plus fortes expériences de lecteur. Il aime faire résonner des lectures avec des lieux, comme lorsqu'il lit Michel Lermontov, un héros de notre temps, un classique de la littérature russe publié en 1840 qui se déroule dans le Caucase. Je l'ai lu en russe, à la bougie, alors que je me trouvais moi-même au nord du Pakistan, en pleine montagne. Il évoque peu de poètes, mais il met en avant la poétesse Catherine Pozzi, et notamment son poème « Ave », cité plusieurs fois dans « Yoga », poème dont Emmanuel Carrère se récite les vers en espérant qu'ils atteignent le cœur de la femme aux Gémeaux qu'il croise par hasard dans la salle d'embarquement d'un aéroport après l'avoir perdu de vue pendant 3 ans. Catherine Pozzi, c'est celle qu'il considère comme l'improbable et fulgurant croisement de Simone Veil et Louise Labbé. Il aime aussi Jules Verne, Marie Shelley et son Frankenstein, Michel Déon, Neige d'Orhan Pamuk, Béatrix Beck, Pierre Paché, l'ami qu'il appelait Paché et jamais Pierre, auteur qu'il découvre avec Autobiographie de mon père. Tous ces livres sont pour lui des exercices d'intranquillité et de vigilance, mais Pierre Paché, c'est autre chose qu'un écrivain qu'il admire. C'était pour Emmanuel Carrère un de ses héros de la vie réelle. Emmanuel Carrère est écrivain, mais aussi scénariste, réalisateur, ainsi que chroniqueur judiciaire. Il est né en décembre 1957 à Paris. On connaît un peu le cercle familial dans lequel il a grandi. Son père, Louis Carrère, assureur. Sa mère, que l'on connaît davantage sous le nom d'Hélène Carrère d'Ancos, qui était historienne, académicienne et femme politique. Et puis ses deux sœurs, Nathalie, avocate, et Marina, médecin, animatrice télé d'un magazine de santé et chroniqueuse radio, mais aussi ce grand-père maternel, d'origine géorgienne, qu'Emmanuel Carrère évoque dans « Un roman russe ». Étudiant à Sciences Po, à moins de 20 ans, il entre à la revue Positif, dont il intégrera le comité de rédaction en février 1979 et travaillera aussi pour Télérama, comme critique de cinéma. C'est un art qu'il exercera avec talent pendant plus d'une dizaine d'années. En 1982 paraît son premier ouvrage, Werner Herzog, un essai consacré au réalisateur et acteur. Son premier roman, L'ami du jaguar, paru en 1983, est une histoire d'amour dans un univers foisonnant et baroque. Suivront quatre autres romans, Bravoure, Prix Passion 1984 et Prix de la vocation 1985, La moustache, une œuvre fantastique dont il assurera également la version cinématographique sortie sur les écrans en 2005 avec Emmanuel Devos et Vincent Lindon, et Hors d'atteinte, suivi de La classe de neige, sortie en 1995, qui est une sorte de conte terrifiant où la réalité se révèle bien pire que ce que le petit héros Nicolas peut lui s'imaginer. Ce roman, récompensé par le prix Femina, sera adapté au cinéma par Claude Miller en 1998. En 1993, il a entre-temps publié une biographie de Philippe K. Dick, « Je suis vivant et vous êtes mort ». Philippe K. Dick est un écrivain absolument majeur pour Emmanuel Carrère. C'est quelqu'un, dit-il, qui a inventé de nouvelles terreurs qui n'existent pas et sont incroyablement prémonitoires et prophétiques. Pour lui, c'est une référence aussi écrasante qu'a pu être Charlie Parker dans le domaine du jazz. Et puis, le grand tournant dans ses écrits surgit avec la parution de L'Adversaire en 2000. Livre inspiré par l'affaire Roman, cet homme qui a tué son épouse, ses enfants et ses parents, après avoir menti pendant plus de 15 ans à son entourage, se faisant passer pour un médecin auprès de l'OMS. L'Adversaire est un récit où l'on côtoie l'horreur, le vertige abyssal de l'inhumanité. C'est une histoire d'épouvante, de terreur, d'autant qu'Emmanuel Carrère a dû s'approcher au plus près du réel, de son sujet donc, pour écrire ce récit. Il dira plus tard, dans Le Royaume, « Il y a à l'intérieur de chacun de nous une fenêtre qui donne sur l'enfer. Nous faisons ce que nous pouvons pour ne pas nous en approcher, et moi, j'ai de mon propre chef passé 7 ans de ma vie devant cette fenêtre, médusée. Car c'est bien 7 ans qu'il lui faudra pour écrire ce livre, cherchant le style d'écriture qui pourrait porter au mieux cette histoire pour aboutir à un récit, et non à un roman. À l'image de Truman Capote avec « De sang-froid », livre qu'il admire, Emmanuel Carrère a voulu reprendre le principe du non-fiction novel ou roman non-fictionnel, à la différence que, pour L'Adversaire, l'auteur est présent comme narrateur et comme personnage. Il dira « J'ai longtemps essayé de l'imiter, c'est-à-dire de raconter la terrible histoire de Jean-Claude Roman comme si je n'en faisais pas partie. Finalement, j'ai fait autre chose. » J'ai renoncé à m'absenter, j'ai écrit le livre à la première personne. Je pense, sans exagérer, que ce choix m'a sauvé la vie. L'Adversaire, vendu à plus de 600 000 exemplaires, sera porté à l'écran par Nicole Garcia en 2002. Ce récit symbolise donc une bascule dans l'écriture d'Emmanuel Carrère. C'est là où la fiction fait place au réel. En 2003, il réalise un documentaire, Retour à Kotelnitch, l'enquête sur un paysan hongrois qui a été capturé par l'armée rouge en 1944, puis interné pendant 56 ans en URSS. Il reconnaît que pour Retour à Kotelnitch, il a beaucoup filmé et l'expérience du montage lui a beaucoup plu. Selon lui, elle a sans doute influencé sa façon d'écrire. Toujours est-il qu'avec l'écriture d'un roman russe paru en 2007, il revient sur le tournage de ce documentaire « Retour à Kotelnitch ». Il y mène également une enquête sur son grand-père d'origine russe et relate son histoire d'amour qui prendra un tournant tragique avec la publication de sa nouvelle érotique « L'usage du monde ». Histoire de secrets, de disparitions, de folies et de crimes, voici comment la quatrième de couverture les résume. C'est de cela qu'il est question ici, des scénarios que nous élaborons pour maîtriser le réel et de la façon terrible dont le réel s'y prend pour nous répondre. Suivra en 2009 la sortie de son livre « D'autres vies que la mienne » que nous évoquerons bien sûr plus longuement tout à l'heure. En 2011, Emmanuel Carrère reçoit le prix Renaudot pour Limonov, un récit écrit autour du dissident et homme politique russe Édouard Limonov. Il obtient à nouveau un prix en 2014, c'est le prix littéraire du monde pour Le Royaume, un ouvrage de plus de 600 pages, sorte d'enquête sur la naissance du christianisme et qui est né de la crise mystique qu'il avait traversée au début des années 90. Il y dit notamment « Je suis devenu celui que j'avais peur de devenir, un sceptique, un agnostique, même pas assez croyant pour être athée. » En février 2016, paraît « Il est avantageux d'avoir où aller », une anthologie de 25 années d'articles qu'il a écrit. Pour Yoga, en 2020, il revient à la non-fiction. À son titre, on pourrait s'attendre à une gentille réflexion sur cette pratique, mais une fois lu la quatrième de couverture, on comprend qu'il s'agira de tout autre chose, puisque si Emmanuel Carrère aborde sa pratique du yoga et de la méditation, il y relate aussi une grave dépression qui aboutira à une hospitalisation et à un diagnostic de trouble bipolaire. Mais ce récit ne s'arrête pas là. Il s'ouvre aussi sur d'autres vies difficiles. En Grèce, dans un camp de réfugiés sur l'île de Léros, aux côtés d'Hamid, Atik, Hassan et Mohamed, ainsi que celle qui l'a menée jusque-là et qu'on surnomme Erika. En 2021, c'est un retour au cinéma pour Emmanuel Carrère, avec une libre adaptation du livre de Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham, qui sort sur les écrans sous le titre de Ouistreham. Et puis, en septembre 2022, paraissent ces chroniques judiciaires du procès des attentats du vendredi 13 novembre 2015 sous le titre V13, nom de code du procès, qui représente 9 mois de ces chroniques parues chaque semaine dans l'Obs, chroniques, si l'on peut dire, augmentées par l'auteur lui-même pour son ouvrage. Pour Emmanuel Carrère, il y a 2 types d'histoires. Celle dont on tire le fil comme celui d'une pelote de laine, comme La Moustache et La Classe de Neige, et puis les livres puzzle, où on découvre petit à petit la figure qui se dessine comme dans Le Royaume. C'est là où le montage, selon lui, a beaucoup d'importance. En musique classique, c'est Emmanuel Carrère, M. Scarlatti, joué par Horowitz, Debussy et Philip Glass. Il affectionne aussi particulièrement la polonaise numéro 6 de Chopin, dite héroïque, que je vous propose d'écouter, interprétée par Martha Argerich. Car cette polonaise héroïque, on le lit dans Yoga, Emmanuel Carrère l'a écoutée et réécoutée jusqu'à plus soif, si je puis dire, pendant une nuit bien arrosée en compagnie d'Erika. Erika qui lui racontera pourquoi elle aime particulièrement ce morceau joué magnifiquement par Martha Argerich et elle confiera à Emmanuel Carrère la pépite que recèle la vidéo de l'enregistrement qui dure 6 minutes 41 que vous pouvez retrouver sur YouTube, pépite qui apparaît juste à 5 minutes 30. Et je ne doute pas que, comme moi, vous alliez à la recherche de cette surprise. Vous ne vous en lasserez pas. Alors, à défaut de l'image, écoutons-la.
Thank you.
À sa sortie en 2009, D'autres vies que la mienne a fait l'objet d'excellentes critiques. Nelly Capriélan écrivait d'ailleurs pour Les Inrocks, ce qui résume assez bien ce que je pourrais en dire, au moins bien sans doute. Un grand et beau livre sur la justice, la justesse, la juste place à occuper dans sa vie par rapport à soi et par rapport aux autres et le geste entier de rendre justice à ce que la vie vous a apporté de plus beau. Mais pour vous en dire un peu plus, ajoutant que ce livre évoque des événements tragiques dont Emmanuelle Carrère a été le témoin. Ces événements, c'est d'abord le tsunami qui s'est produit en 2004 au Sri Lanka, qui touchera des personnes de son entourage, et peu de temps après, la mort de Juliette, sa belle-sœur. À travers les rencontres avec les proches, ceux qui en fait vivaient directement ces tragédies, lui ont pratiquement demandé de raconter l'histoire de ses absents. C'est ainsi qu'il suivra le parcours hors pair de deux juges au tribunal d'instance de Vienne et leur lutte acharnée contre les injustices faites aux personnes surendettées. Comme pour Limonov, Emmanuelle Carrère considère que D'autres vies que la mienne a pour lui une dimension politique, avec ses 50 pages où il suit Étienne Régal et sa belle-sœur Juliette dans leur combat contre le surendettement. Alexandre Geffen, critique littéraire, chercheur, essayiste et grand spécialiste de la littérature, considère lui que D'autres vies que la mienne marquent une nouvelle approche dans l'œuvre de Carrère, mais aussi dans la littérature française du XXIe siècle. Si depuis L'Adversaire, Emmanuelle Carrère s'attache à mettre en mots le mal en l'humain, avec D'autres vies que la mienne, il met le projecteur sur des héros du quotidien animés par la vertu, la justice et le soin. C'est Philippe Lioré qui adaptera très librement pour le cinéma D'autres vies que la mienne avec son film Toutes nos envies, sorti en 2011. Ce film se limite en effet à relater la deuxième partie du livre. Wyatt Mason, journaliste et écrivain américain, écrivait d'Emmanuelle Carrère « Si obsédé que soit Emmanuelle Carrère par la perte, la violence et la folie, ses livres s'acheminent toujours vers une fin où surgit un espace de joie. Leur force est d'être écrit par quelqu'un qui sait ce que cette joie coûte. » Comment j'ai découvert ce livre? Alors, si j'ai reconnu à plusieurs reprises dans ces podcasts que je ne cours pas chez le libraire dès qu'une nouveauté est mise en avant à sa sortie par les critiques, je reconnais que pour Emmanuelle Carrère, je n'hésite pas à acquérir le petit dernier à sa sortie. Pour D'autres vies que la mienne, c'est donc ce qui s'est passé. Et il est vrai que la forme choisie par Emmanuelle Carrère, la non-fiction, est aussi une des raisons qui font que j'y cours sans hésiter, car c'est un genre dans lequel il excelle. Et tant pis si certains de ses détracteurs disent de lui qu'il a tendance à se mettre en scène et à tout ramener à lui dans ses récits, car s'il s'affiche en effet dans ses écrits, c'est avec une humilité dont beaucoup ne seraient pas capables. Alors pour illustrer ce genre et le récit qu'il fait dans D'autres vies que la mienne, je vous propose d'en écouter un deuxième extrait lu par Antoine.
Une des choses qui m'ont donné envie d'écrire cette histoire, c'est la façon dont Étienne, la première fois, a dit « Juliette et moi, nous avons été de grands juges ». C'était extraordinaire, l'assurance et la fierté avec lesquelles il prononçait ces mots. Comme un artiste qui, tout en sachant bien que sa carrière n'est pas finie, qu'il faut continuer, que rien n'est jamais acquis, sait en même temps qu'il a à son actif une œuvre, au moins une, qui fait que malgré tout, il peut dormir tranquille, que l'avenir sera ce qu'il sera, mais que pour lui c'est joué et c'est gagné. En même temps, cette idée de grandeur associée au métier de juge me laissait perplexe. Si on m'avait demandé de citer trois ou même un seul grand juge, je serais resté sec. Tout ce que j'aurais trouvé, c'est quelques noms dont on parle à propos de dossiers médiatiques. Et encore, ces juges connus du public, Alphen, Van Orenbeek et Vajoli, sont des juges d'instruction. pas des juges siégeant au tribunal avec une robe et un parement d'hermine, personnages que la mythologie romanesque et cinématographique montre plutôt comme d'antipathiques gardiens de l'ordre bourgeois. Même si nous sommes tous d'accord sur l'idée, à la fois bien pensante et juste, que ce qui compte n'est pas ce qu'on fait, mais la façon dont on le fait, et qu'il vaut mieux être bon charcutier que mauvais peintre, nous faisons tous plus ou moins la distinction entre les métiers créatifs et les autres, et c'est plutôt dans les premiers que l'excellence, faite non seulement de compétences, mais de talent et de charisme, peut s'évaluer en termes de grandeur. Pour m'en tenir au droit, un grand avocat, je voyais bien ce que c'était. Un grand huissier, moins. Et un grand juge. Ma foi, surtout lorsqu'il s'agit d'un juge d'instance, spécialiste non des grandes affaires criminelles, mais du contentieux civil, mur mitoyen, curatelle, loyers impayés. Disons qu'a priori, cela ne me faisait pas rêver. Pour expliquer sa vocation, Étienne dit trois choses. Qu'il aimait l'idée non pas de défendre la veuve et l'orphelin, mais de dire ce qui est juste et de rendre la justice. Qu'il souhaitait changer la société, mais aussi y occuper une place confortable, sans se soucier de faire fortune, mener une vie bourgeoise. Qu'enfin on exerce en jugeant un pouvoir, et qu'il a, sinon le goût du pouvoir, du goût pour le pouvoir. Quand il dit qu'il n'a pas le goût du pouvoir, mais du goût pour le pouvoir, je ne saisis pas très bien la nuance, mais elle illustre un trait que j'ai appris à connaître chez lui et que j'aime bien.
Life,
La résonance avec d'autres vies que la mienne, pour moi, c'est le quai de Ouistreham. Le livre de Florence Aubenas, paru en 2010, pas seulement parce qu'Emmanuel Carrère en a fait une adaptation pour le cinéma en 2021 avec une magnifique interprétation de Juliette Binoche, ni parce que Florence Aubenas et Emmanuel Carrère partagent tous les deux la vocation de journaliste, mais parce qu'il s'agit bien du même type de récit. À la différence près que Florence Aubenas n'y tient pas le rôle de témoin. Elle se crée une nouvelle identité, celle d'une femme sans ressources qui débarque à Caen à la recherche d'un emploi, afin de s'immerger pendant 6 mois, de février à juillet 2009, dans la vie précaire de celles et ceux qu'elle va côtoyer. Florence Aubenas aurait pu seulement réaliser un reportage, mais le choix qu'elle a fait donne à son récit une parole plus forte. Elle raconte les rencontres qu'elle va faire dans ses parcours laborieux entre Pôle emploi, les agences de recrutement, les différents lieux de travail, notamment le ferry de Ouistreham, les ZAC, les campings avec leurs bungalows. Et outre l'exploitation et les conditions de travail déplorables de ces femmes agents d'entretien, elle raconte aussi leur courage, leur énergie, leur solidarité, les souvenirs partagés, les fous rires. Ce récit a reçu le prix Joseph Kessel et il a également été porté sur scène en 2020 par le metteuse en scène Louise Vigneault. Je vous propose donc d'écouter un extrait de ce livre. Je rentre de mon remplacement du matin. Il est 8 heures. Il traîne dans le ciel un reste de nuit. Il me semble avoir déjà une journée dans les jambes, alors que je n'ai travaillé que 2 heures. Je me suis mise à calculer mes heures de sommeil avec autant de minutie que mes heures de travail. Je reviens du ferry à 23h30, je me lève à 4h pour le premier ménage. Dormir est devenu une obsession. J'ai ouvert ma porte, je me suis allongée tout de suite. Je voulais dormir, je n'y arrive pas. Je flotte dans une vague demi-conscience dont me tirent des fourmillements dans les bras dès que je m'assoupis vraiment. J'ai des frissons, la fatigue sans doute, car l'air est doux. J'ai du soleil plein les paupières malgré mes yeux fermés. Il faudrait que je bouge. Je n'y arrive pas non plus. Une mollesse comme quand on a la fièvre. Je devrais peut-être manger quelque chose. Je me souviens d'avoir avalé une baguette entière avec 1 litre de Yop Coco, mais je n'arrive plus à savoir si c'était hier soir, au retour du ferry, ou ce matin, au retour du ménage. J'ai l'impression de passer mon temps à rouler, en pensant sans penser, la tête traversée par des combinaisons compliquées d'horaires, de trajets, de consignes. Ce souvenir d'arrêter l'alarme en arrivant à tel endroit, prendre la sortie sur la voie rapide pour aller dans tel autre, remettre les clés du local dans leur cachette, ne pas oublier de sortir la poubelle de la cafétéria. Une citation d'Emmanuel Carrère. L'écriture, c'est le lieu de la vérité. La littérature est le lieu où on ne ment pas. C'est l'impératif absolu. L'arbre et la forêt urbaine. On a déjà parlé ici de l'arbre dans la ville, mais je vous propose aujourd'hui de faire un focus sur ce qu'est précisément une forêt urbaine. Dans sa définition, la forêt urbaine, c'est l'ensemble des surfaces boisées, que ce soit les groupes d'arbres ou les arbres individuels, que l'on trouve en zone urbaine et périurbaine, dans les jardins, les parcs, les squares, les bois ou forêts, les places et le long des rues. Leur particularité par rapport aux forêts classiques, c'est le grand nombre d'essences qui les composent. Dans les forêts françaises, on dénombre en moyenne environ 100 espèces différentes par forêt. En forêt urbaine, on peut atteindre jusqu'à 700 espèces, comme à Paris. Rien qu'au cimetière du Père-Lachaise, on peut observer 113 espèces spécifiques. Alors, si ces arbres contribuent aujourd'hui au bien-être des citadins, au développement de la biodiversité et à la lutte contre les températures élevées, on en a déjà parlé, le dérèglement climatique mettra cependant à mal certaines de ces essences. Il conviendra donc, au terme des études qui sont menées aujourd'hui par des organismes comme l'ADEME, de privilégier de nouvelles essences capables de résister à ces changements climatiques dans la seconde moitié du XXIe siècle. Il est donc impérieux de préserver également ces organismes comme l'ADEME. À bon entendeur, salut. Merci à Antoine pour sa contribution et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Millefeuille revisité, toujours sur l'autre radio.